t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation la semaine dernière sur la situation politique du pays. Dans son discours, le président de la République a décidé d'entamer cette semaine une série de consultations avec des leaders représentatifs de la société en vue de la création d'une union sacrée pour la nation que devra composer les personnes ayant la même vision que lui. Alors, que vous inspire cette décision? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec l'ensemble des internautes sur notre page Facebook et également sur notre site www.radiocapi.net. Polydor Basunga sur la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot Lameji. J.R. Lungembo Luabung Anji est à la présentation et à la coordination de cette émission. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Un discours pour les uns trop philosophique et pour les autres un discours très clair et qui met fin à la coalition FCC et CASH. Nous recevons dans ce studio le professeur Tshibangu Kalala, analyste politique et également acteur politique. Avec lui, nous allons échanger sur cette question. Professeur Tshibangu Kalala, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous honorer de votre présence dans ces studios et merci surtout de faire confiance aux auditeurs avec lesquels vous êtes déjà habitués dans ces jeux, des questions, réponses et aussi de cet échange citoyen.
Oui, c'est vrai. J'avais promis à mes amis au CAPI que j'ai des choses à penser, à dire et à faire. Donc je commence avec eux.
Et depuis que vous avez recouvré votre liberté de penser.
Liberté de penser, de silence.
Voilà, d'entrée des jeux, professeur, les discours du chef de l'État, disons, clairement commentés sur l'ensemble du pays. Des uns disent qu'effectivement, il y a crise entre les FCC et les CASH. Les constats que vous avez fait en tant qu'analyste sur la situation politique, y a-t-il vraiment crise politique en ce moment?
Je tiens d'abord à remercier la direction de Radio Okapi et vous-même, toute l'équipe de Parole aux auditeurs, pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce sujet. Je salue tous mes amis Okapi qui vont me suivre au cours de cette émission. Jérôme Longuembo, la situation est très grave. Le pays, notre cher parti, la RDC, est en train de sombrer chaque jour. Nous traversons une période très difficile, période sombre de notre histoire. J'ai suivi le président de la République dans un ton grave. Il exprimait en fait la colère de notre peuple. En fait, rien ne va. Le président nous dit très clairement qu'il n'y a pas une action gouvernementale dans le pays. La coalition qu'il dirigeait est dans un état de désordre indescriptible. Le président nous donne une liste impressionnante des points sur lesquels ils sont en désaccord. Finalement, le seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est le désaccord sur tous les points. Ils ne s'entendent sur rien du tout. Et donc le pays est paralysé et on ne sait pas avancer. Et le président propose qu'il faut refonder l'action gouvernementale. Pour ne pas dire même refonder, mais carrément tout simplement, l'État congolais. Et il dit, je dois vous donner la parole. Je vais vous consulter. Vous, peuple congolais, souverain primaire, avec consulter les forces vives de la nation, les leaders significatifs, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation. Et le président a bien fait de prendre de recul, de consulter la population congolaise par ses représentants les plus significatifs pour qu'ils donnent aussi leur avis. Parce qu'il n'est pas le seul à décider comme ça. Il doit faire preuve de sagesse, d'intelligence, de modération.
Mais professeur, d'où...
Mais,
oui.
Allez-y, je vous écoute.
Donc, d'où est partie cette crise? Parce que si on suit les discours, oui. Vous l'avez dit, les temps est très fort. Mais la question que les gens se posent, d'où est partie cette crise? Quand est-ce que le chef de l'État a constaté qu'il y a vraiment un désaccord persistant?
Mais c'est à partir de la crise des juges de la Cour constitutionnelle. Depuis mercredi passé, quand le président appelle ses partenaires de la coalition, il les invite à une cérémonie officielle, solennelle, pour venir assister à l'appréciation des juges, eh bien, ce qui arrive, c'est très grave. Je crois que c'est la première fois dans notre pays, je n'ai pas de souvenir. Eh bien, le gouvernement, dans sa majorité, refuse de répondre à l'appel du président. Le président n'a plus de gouvernement. La majorité parlementaire qui l'appuyait, qui était détenu par le FCC, mais la majorité parlementaire, etc., refuse de répondre à son invitation. Mais c'est très grave. Donc le président n'a plus de majorité parlementaire qui peut le soutenir pour aller de l'avant. Il n'a plus de gouvernement avec lequel il peut travailler pour aller de l'avant. Et donc, il conclut qu'il n'y a plus d'action gouvernementale digne de ce nom que nous pouvons mener dans le pays. Et donc, c'est la question des juges. Peut-être
donc, l'absence du gouvernement, oui. Lors des prestations des serments des juges, signifie, disons, l'absence du gouvernement. Donc, le chef de l'État n'a plus de crédit vis-à-vis de ses partenaires. Parce qu'il n'a pas de gouvernement, en réalité.
Mais le président se trouve dans une situation très grave, lui-même, comme institution en République, qui incarne l'État, qui incarne la nation, etc. Et donc, il n'a plus de gouvernement. Il n'a plus de majorité parlementaire, vous comprenez. Il va s'engager bientôt, parce que l'Afrique a fait honneur à notre pays, la RDC. Bientôt, le président va présider l'Union africaine, dans quelques mois. Les Jeux de la francophonie seront là, dans quelques mois, la prochaine. Mais le président ne va pas aller devant ces échéances.
Mais avec quelle crédibilité?
Avec quelle crédibilité? La politique extérieure d'un pays dépend de sa politique intérieure. S'il y a l'anarchie dans ce pays, dans un pays, eh bien, ce pays n'a pas de politique extérieure. On ne va pas le respecter, face du monde. Et donc, il y a même un risque, si l'anarchie continue comme ça, eh bien, que l'Afrique risque même de nous retirer la présence de l'Union africaine. Parce que, on ne peut pas comprendre qu'un pays, chef d'État, qui va lui-même s'occuper des problèmes africains dans d'autres pays, le Mali, le Niger, un peu partout, mais que dans son propre pays, la crise fait rage, il n'arrive pas à y mettre fin. Est-ce que c'est crédible? Et donc, il y a la nécessité urgente pour moi que le président travaille pour mettre rapidement fin au désordre dans le pays.
Alors, si on fait les constats, on va encore plus loin. C'est vous avez dit, la crise pour vous a été s'est cristallisée avec l'absence du gouvernement lors de la prestation des serments des juges. Mais bien avant, on a remarqué quelques actions d'indifférence. Je prends les cas, par exemple, avec le ministre de la Justice, qui est allé, donner un avis favorable sur une question sans consulter les chefs de l'État. On voit le tout dernier événement de Minembwe, où on se rend compte que finalement, il n'y a pas une cohésion au niveau du gouvernement. Et est-ce qu'il fallait attendre pendant longtemps? Est-ce que c'est pas tard de prendre une décision maintenant? Comme le disent certains analystes, le chef de l'État n'a plus de marge de manœuvre sur le plan juridique.
Mais le président invite le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre désobéit. En fait, il n'y a plus rien. C'est une situation inédite dans notre pays. Je n'ai pas encore vu ça. Et donc, le président a raison. Il a tapé du poing sur la table. Il avait raison de taper du poing sur la table. Au nom de notre peuple. Mais pour moi...
Est-ce que la Constitution lui donne cette marge de manœuvre?
Et moi, je vais le dire au cours de cette émission... Le président ne doit pas se limiter à taper du poing sur la table. Il a bien fait. Pour moi, il doit tout simplement renverser la table. Et donc, sinon, ça ne sert à rien.
Bah alors, interrogez le texte alors.
Mais renverser la table, qu'est-ce que cela signifie? Il y a, puisque la coalition n'est plus là, il ne faut plus citer.
Mais il n'a pas dit clairement dans son discours.
Non, mais le chef de l'État sait comment s'exprimer. Donc la situation est claire. Quand tu nous dis, oui, pendant 2 ans, on a espéré qu'on pouvait faire ceci. Mais malheureusement, le terme vient de lui, malheureusement, force est de constater qu'il y a des divergences sur tout le point. La paix, la sécurité, les entreprises publiques, même la diplomatie. En fait, on ne s'entend sur rien du tout.
qu'il n'y a plus
donc,
rien.
Donc, en termes clairs, la coalition n'existait plus.
Oui, mais même s'il ne l'a pas dit en termes clairs, s'il dit qu'il faut aller au-delà de la coalition, il dit que ça ne marche pas et qu'il faut chercher l'union sacrée. Donc, clairement, le président sort de la coalition. Parce que c'est une condamnation catégorique de la coalition. Mais il tape du poing sur la table. Il dit que j'ai tous les pouvoirs. C'est moi le président. J'ai l'article
69.
J'ai tous les pouvoirs. Et qu'aucun accord politique de quelque nature de ce stade ne peut m'empêcher d'agir comme président ou de sacrifier les intérêts supérieurs de notre pays, de notre peuple. Et donc, je prends l'engagement maintenant de consulter les forces significatives de notre pays, les forces vives, pour qu'on trouve une solution, créer une union sacrée, un rassemblement très fort pour sortir de cette situation.
Mais qu'est-ce dit l'article 69 que le chef de l'État a évoqué?
Oui, l'article 69, c'est
vraiment... Parce qu'il a parlé de la continuité.
Ben, l'article 69, c'est d'abord, il dit, lui, c'est le représentant de la nation. C'est ce que je dis, représentant de la nation.
Les garants du bon fonctionnement.
C'est le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui incarne, qui représente la nation. C'est dit dans la Constitution, article 69. Et puis, c'est lui comme arbitre, il assure l'arbitrage, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des institutions de la République.
Mais il est le garant. Quand on parle de l'arbitrage, oui. C'est-à-dire qu'il y a crise entre les gouvernements et le Parlement ou d'autres institutions.
Non, il assure le fonctionnement régulier des institutions de la République. Et donc, il n'a pas dit très clairement ce qu'il va faire. Mais et puis, il a invoqué un principe fondamental que j'approuve pour dire que dans la situation actuelle, il y a péril à la demeure. Mmh. Il y a un danger pour notre pays.
Il faut sauver le pays.
Et ce qui est important aujourd'hui, la loi suprême, Gilles Longuembo, la loi suprême pour un pays, c'est pas la Constitution. Mmh. La loi suprême pour un pays, c'est la loi de la conservation de l'État. La loi de la conservation de l'espèce humaine congolaise. C'est ça la loi suprême. Salus Populi, Populi, Suprême Alex, le président l'a rappelé. Mmh. La loi suprême, c'est la loi du salut public. Mmh. Et dans la situation actuelle, eh bien, il doit prendre les dispositions nécessaires pour sauver le peuple, sauver la nation, sauver le pays. Eh bien, en vertu de l'article 69, qui le met...
Donc la démarche n'est pas anticonstitutionnelle.
Pas du tout. Mais c'est le chef. Mais les 90 millions...
C'est pas une dictature.
Non. Les 90 millions des Congolais aujourd'hui ont leurs yeux tournés vers qui? Vers le président de la République. On l'attend. Qu'est-ce qu'il faut dire pour tirer le pays, tirer la nation du trou profond dans lequel le peuple congolais se trouve aujourd'hui? Nous sommes à la risée du monde entier. Nous sommes à la risée aujourd'hui de l'Afrique. Ce qui s'est passé mercredi dernier, Gilles Longuembo, c'est inadmissible. C'est une honte pour notre pays. C'est le président, et le président seul, qui représente la nation, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, d'assurer le fonctionnement régulier, c'est lui et lui seul qui peut nous dire ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc c'est très important. Il est dans la Constitution. Il est dans l'article 69 de la Constitution.
Mais quand il n'a plus de gouvernement, il n'a plus de la majorité, pourquoi ne pas dissoudre carrément l'Assemblée nationale?
Pour moi, je vous ai dit qu'il faut...
Parce que vous l'avez dit, la crise est partie de là. Oui. Le gouvernement ne s'est pas présenté lors de la prestation des serments des juges, ce qui veut dire qu'il n'a plus de gouvernement, le président, il n'a plus la majorité. Pourquoi ne pas procéder directement à un rapport de force, c'est-à-dire dissoudre le Parlement?
Mais le président va se réunir en conseil des ministres avec qui, aujourd'hui? Avec un Premier ministre qui le sabote, qui n'obéit pas, avec des ministres, majorité du gouvernement, qui n'est pas derrière lui, cette majorité. Il va travailler avec qui? Et donc, il l'a dit lui-même, il faut refonder l'action du gouvernement. Donc il faut un autre gouvernement. Il faut une autre majorité parlementaire. Ça c'est très important. Gilles Longuembo, on va engager des réformes constitutionnelles, économiques, des réformes constitutionnelles même. Il faut construire un autre modèle économique, un autre modèle politique pour la grandeur du pays. Mais avec quelle majorité politique? Avec ce Parlement? Ils vont réfléchir sur quoi?
Alors pourquoi ne pas aller directement aux élections?
Alors, pour moi, pour sortir de la crise, je donne mes réflexions personnelles. Mmh. Je ne suis pas conseiller du président de la République. Nous sommes dans un débat libre avec...
Oui, si je comprends, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Moi, c'est ce que je propose. Est-ce que ce sont des consultations ou carrément il fallait passer à la vitesse supérieure, organiser des élections anticipées?
Pour moi, je vois quatre formules. La première formule, c'est de tout faire avec les sages qui vont venir pour dire il faut rétablir la coalition. Qu'on prenne les mêmes membres et que les sages. C'est une formule. Qu'on ne casse pas la coalition. Mais moi, je ne suis pas favorable à cela. On va continuer dans des querelles. Les gens qui n'ont pas travaillé, qui étaient ensemble, soi-disant qu'ils travaillent ensemble, mais sans travailler ensemble, pendant 2 ans,
il nous reste parmi eux, il les a qualifiés de prédateurs.
C'est du n'importe quoi. On ne peut pas suggérer une telle solution. Pour moi, le président doit renverser la table. Eh bien, il faut sortir de la coalition. On ne peut plus chercher à reconstituer avec les gens qui vont continuer à s'insulter du matin au soir, à paralyser l'action du président, du gouvernement. C'est pas possible. C'est se moquer de notre peuple. C'est une honte. Le président doit, il a tapé du poing sur la table, il faut qu'il renverse la table. Donc, pas de coalition. Ça, c'est mon point de vue. Mmh. Une deuxième solution, c'est la cohabitation. Puisque le groupe FCC a la majorité parlementaire, c'est ce groupe qui a désigné le Premier ministre à sa majorité parlementaire, et donc on rentre dans la cohabitation du type français. François Mitterrand avec Chirac et plus tard avec Balladur, eh bien chacun de son côté. C'est le gouvernement qui conduit, qui définit et conduit la politique de la nation, et donc le gouvernement FCC, pur et dur, va continuer. Et le président,
les cas qu'on n'aura plus des ministres.
Non, mais ils sortent parce qu'il n'y a plus rien. Mmh. Il y a la majorité, ils sont, c'est pas 338 députés, et donc ils vont faire ça. C'est la cohabitation. Pour moi, c'est la pire des solutions.
C'est très dangereux.
Mais le président ne va pas signer certaines ordonnances. Donc vous avez 2 gouvernements dans un gouvernement. Donc
ils vont se parler. C'est
encore pire. On ne peut pas se moquer de notre pays, de notre peuple qui est dans les souffrances, dans les misères, qui a besoin qu'on lui apporte solution. Et puis on a à la tête du gouvernement 2 têtes hein, qui s'affrontent, qui se paralysent, etc. Ça sera pire. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pas de cohabitation. Troisième solution. Eh bien, on peut créer une autre majorité parlementaire. Eh bien, tu pourrais comprendre le FCC et tous les autres, etc. Mais je vois la réaction du FCC, j'anticipe, qui pourrait dire, écoutez, moi, vous n'allez pas me mélanger avec n'importe qui. Nous avons gagné les élections, nous avons la majorité parlementaire, nous avons un gouvernement, nous voulons un gouvernement pur FCC, on n'a pas à aller au-delà, nous associer avec des quidam comme ça. Pas question. On est dans la crise qui va continuer, dans les confrontations, etc. Et puis, cette solution-là de chercher à prendre les gens au château, à faire le débauchage, je pense que ce n'est pas dans la culture de l'IDPS. Ce modèle-là de marchandage nocturne, des gens qui vont demander des postes, voire même de l'argent, chercher à casser la majorité FCC pour qu'ils basculent dans l'autre camp. Ça, c'est une mauvaise solution. Ça sera encore... On ne va pas là-bas. Au Congo-Brazzaville, on l'a appliqué en 98, vous savez, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, il y a eu le changement des majorités de l'Assemblée, mais ça conduit à la guerre civile et aux morts, etc. Et donc, on ne va pas... C'est genre de pratique. Il y aura des corruptions, des gens qui font monter des enchères. Si vous voulez que je vienne avec vous, qu'est-ce que vous me proposez? Il faut éviter ça. Mmh. Quatrième formule, c'est organiser les élections législatives anticipées. Le président demande au peuple de lui donner une majorité parlementaire nouvelle pour pouvoir l'aider à conduire une action gouvernementale cohérente, dynamique, pour nous attaquer à la pauvreté qui détruit notre pays, qui détruit notre peuple. Et donc, il faut une nouvelle majorité parlementaire qui a une légitimité populaire fraîche, une majorité qui vient de sortir des urnes, avec des nouvelles personnes, etc.
Les élections qui seront organisées dans 2 ans, dans 3 ans.
Et donc,
anticiper, c'est dans combien de mois proposer?
Oui, les élections législatives anticipées. Avant de répondre à la question, on peut dire ceci. Soit on dissout l'Assemblée nationale, parce que c'est là où il y a des problèmes. On dissout l'Assemblée nationale, et le président a le pouvoir de le faire. Il y a une crise permanente, mais tout le monde comprend bien qu'il y a une crise. Il y a l'exécutif, le président, il est dans l'exécutif, le président de la République. Nous avons un exécutif bicéphale. Donc le chef de l'exécutif, c'est le président de la République.
Mais l'impression que ça donne, la présidence, c'est séparé avec l'exécutif.
Non. Mais qui préside les conseils des ministres? C'est le président de la République. Qui fait l'ordre du jour du gouvernement? C'est le président de la République.
Je suis un ancien ministre. Il fait partie de l'exécutif.
Bien sûr, mais c'est lui. S'il n'est pas d'accord que tel ou tel point figure à l'ordre du jour du conseil des ministres, on va enlever le point. C'est lui le chef. Je vous parle, je suis un ancien ministre, je ne sais pas combien de sous ministres. C'est lui le chef de l'exécutif. Vous comprenez? Et donc, rien ne peut se faire sans son accord. c'est le chef. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le président peut dissoudre
l'Assemblée.
L'Assemblée. Et fixer, après consultation bien sûr, parce qu'il ne faut pas aller vite, hein, fixer la date des élections législatives. Il peut soit le faire en dissolvant l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a le délai de 60 jours qui est prévu. Mais il peut le faire aussi, ben c'est la solution, sans dissoudre formellement l'Assemblée nationale. Sans dissoudre l'Assemblée nationale. Convoquer des élections législatives anticipées. Ça se fait dans les démocraties européennes. Quand il y a un problème grave, etc., dans le pays, des mésententes, eh bien, on convoque les élections législatives. On donne la parole au peuple pour que le peuple lui-même tranche. Mmh. Pour dire, est-ce que cette majorité-là que j'avais constituée il y a 2 ans ou 3 ans travaille pour moi, le peuple, ou pas? Il va désigner des autres mandataires. Et donc, dans la situation actuelle, Jérôme Gembo, ce n'est pas des consultations de couloirs avec des
individus.
Il faut donc élection législative anticipée avec ou sans dissolution. Et je reviendrai sur la question des élections. Comment on peut régler la question des élections?
Alors, nous avons déjà les auditeurs qui se sont fait signaler. Nous allons ouvrir les standards pour accueillir les autres également qui veulent intervenir dans cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous êtes en ligne, Olivier, vous êtes à Kikwit.
Oui, je suis là, J.R., je suis là.
Quelle est votre réaction, Olivier?
Oui, je pense qu'il y a 4 choses sur lesquelles je vais m'intervenir. La première chose, c'est que la crise était prévisible dès la formation de la coalition, dès le début. Tout était prévisible, dans la mesure où c'était deux groupes aux idéologies très opposées. Et ça, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Prévisible. Ici, on dit le peuple d'abord. Là-bas, nous avons vu pendant 18 ans quels étaient les soucis de ce groupe-là. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment... peut-être on a fait des mauvais calculs. La deuxième chose qui ressort de ce discours, c'est que c'est vraiment un aveu d'incapacité de la coalition. Et là, c'est le président avoue que ça ne marchait pas. Mais 2 ans sur 5, JR, vous reconnaîtrez que nous sommes à mi-chemin pratiquement. Mm-hmm. Nous sommes à mi-chemin, et donc on ne va rien. Et le président me dit, voilà, ça ne va pas. Alors, la troisième chose, ça qui est très grave, quand vous examinez les points de désaccord JR, vous constatez que c'est la vie du pays qui est mise en jeu, la vie du pays. Quand on vous dit, par exemple, des accords sur la sécurité nationale et la paix, alors vous comprenez que les chercheurs de l'Est, ça c'est une situation où le président dit, on n'est pas d'accord, alors que le peuple est en train de mourir tous les jours. Mmh. Et la quatrième chose, enfin, toujours la troisième chose, c'est que le président accuse de façon implicite ou même explicite les partenaires. Donc si ça ne va pas, si la paix ne vient pas, ce n'est pas moi, ce sont mes partenaires. Si la paix ne vient pas, ce sont les partenaires. Donc il s'adresse aux gens de l'Ituri, il s'adresse aux gens du Nord-Kivu, aux gens du Sud-Kivu, et même aux gens de Minembwe, et nous qui sommes équipés, il s'adresse à nous. Et la quatrième chose, et c'est ça peut-être que le peuple devra comprendre, le président se tourne vers le peuple, il dit, mais écoutez, soutenez-moi, parce que je constate que je me suis allié à des personnes qui n'ont pas la vision de l'homme. Il ne travaille pas pour l'homme, et donc vous tous, vous serez victimes. Je suis la première victime, mais avec moi, nous tous, on va couler. Et c'est comme ça que le président veut avoir le soutien du peuple. Et
pensez-vous qu'il y a vraiment opportunité de ce que le chef a proposé, des consultations nationales?
Non, ici, c'est justement la technique qu'il veut utiliser, et là, le seul moyen d'y arriver, c'est le débauchage. Donc, il compte sur les indécis du FCC, il compte sur les prostituées du FCC, parce qu'il y en a. Et c'est ça. Mais justement, ça ne va pas nous amener à la solution. Et ce que moi je voulais proposer, ce qui était faisable si le président avait les moyens, parce que c'est un autre problème, on n'a pas le moyen. Les élections anticipées, ça demande qu'on soit sérieux.
Voilà, comme le propose le professeur.
Oui, ça demande qu'on soit sérieux d'abord, hein, sérieux, et deux, qu'on ait les moyens. Or, les deux là, nous ne les avons pas. Le sérieux, nous ne l'avons pas. Nous tous, on cherche des intérêts égoïstes. Donc, si on était sérieux, on pouvait trouver les moyens d'organiser des élections anticipées et ça pouvait faire taire nos amis du FCC. Parce que vous comprenez que quand Ferdinand Kambere dit un discours vide, quand Ferdinand Kambere dit nous on attendait un discours de conciliation, ça signifie que pour eux, ils s'estiment blessés. Ils sont blessés et eux aussi, ils se disent nous avons toujours la majorité entre nos mains. Mmh. Nous avons la machine entre nos mains, donc le président est obligé de composer avec
nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, okay, d'avoir fait cette proposition qui rejoint pratiquement la proposition que vient de faire le professeur Tshibangu Kalala, qui est notre invité. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Christian Politassi.
Bonjour hier et bonjour à l'invité.
Alors, vous avez suivi Olivier, le premier intervenant, et notre invité qui a fait quelques propositions. Alors, comment réagissez-vous, Christian?
Hier, vous savez, déjà, le fait pour les chefs de l'État de faire ces discours, cela veut dire que le chef de l'État a opté pour un nouveau paradigme afin de répondre justement aux défis du progrès, mais aussi de l'intérêt général. Et donc, hier, dans son discours, lorsque le chef dit, il va initier une série de consultations avec les acteurs politiques les plus représentatifs. Cela revient à dire que le chef de l'État a mis fin à la coalition. Et donc, il faut maintenant qu'il est en train de se chercher une nouvelle majorité. Vous savez, hier, lorsque vous êtes en face d'un partenaire qui se comporte comme étant un adversaire, qu'importe les formules que vous pourrez appliquer, eh bien, cela sera regardé de mauvais oeil. Et aujourd'hui, c'est ce que le chef de l'État va faire. Déjà, vous, dans les jours suivants, vous allez voir, Tshilouko vous sera réhabilité dans ses droits par la Cour constitutionnelle. Et Bahati viendra renforcer les chefs de l'État. Une grande partie de la Mouka également va entrer dans ces arches que nous appelons arches de Noé. Ils vont entrer et automatiquement, ceux qui sont dans les FCC, déjà un bon nombre souhaités en fait quitter, ils vont également joindre les chefs de l'État. Et automatiquement, la balance va changer de côté. Les chefs de l'État aura une majorité et cela va lui permettre d'avancer. Parce que, Zia Mungembo, si nous optons aux élections anticipées, croyez-moi que comme nous n'avons pas assez de moyens, cela va nous compliquer la tâche. Et même si nous adoptons une formule qui vient du ciel face au FCC, cela sera toujours regardé de mauvais oeil. Déjà, les FCC, à entendre ces allégations, il dit, les FCC attendent recueillir les détails du discours de l'État. Donc les FCC, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que la coalition a été conduite à la mort. Les chefs de l'État ont mis fin à la coalition. Nous avons appris, il semblerait que les FCC a envoyé les discours du chef de l'État dans des cabinets russes, juifs, pour comprendre la quintessence du discours du chef d'État. Parce que là, les FCC n'arrivent pas à...
Donc vous voulez dire que, disons, toutes les personnalités du FCC, personne n'a compris les discours du chef de l'État. La quintessence, la substance même.
Ils n'ont pas compris. Les FCC, jusqu'à vous des contredits, les FCC attendent retirer les détails du discours du chef d'État. Ils n'ont pas compris. Et ils s'attendaient...
Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre lorsqu'il dit qu'il va entamer une série de consultations? C'est pour dire qu'effectivement, il n'y a plus de coalition.
Non, en fait, et il se croyait être plus fort, et il se croyait, il se disait, non, voilà, celui-là, il est toujours dans notre jungle, nous savons comment est-ce que nous allons les matcher. Mais ils sont en fait surpris. Jusque-là, ils ne reviennent pas. Vous allez voir, lorsque tous les éléments que je viens juste tout à l'heure de l'évoquer, quand cela sera mis en musique, c'est alors que l'FCC va comprendre. Mais ce que moi je crains, Jérôme Nguembo, comme l'FCC est toujours des mauvaises fois, l'FCC va recourir à des choses. D'abord, la première des choses que moi je crains, c'est la guerre, que l'FCC fasse recours aux rébellions. Et la deuxième des choses qui est normale, l'FCC doit nous prouver qu'il est capable qu'il fasse recours à la population avec des marches. Mais sur cette lancée, Jérôme Nguembo, je ne crois pas que l'FCC sera capable de mobiliser la masse.
Pourquoi l'FCC n'ira pas, par exemple, à la Cour constitutionnelle? Parce que c'est comme ça qu'ils nous avaient habitués. Qu'il aille à la Cour constitutionnelle, bon, au lieu d'opter pour la guerre, parce que nous sommes en démocratie, il y a eu des élections, et dès qu'on constate les désaccords, les lieux pour se plaindre, c'est à la Cour constitutionnelle. Comme à l'époque, l'opposition allait à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article qui donnait pouvoir au chef de l'État de rester en vie. Vous avez suivi, nous avons fait des émissions à l'époque, en sautant comment l'opposition était renvoyée à chaque fois à la Cour constitutionnelle.
Oui, évidemment. La Cour constitutionnelle, en fait, elle est indépendante. Elle va recevoir les requêtes du FCC. Mais est-ce que ces requêtes seront-elles fondées? Je ne dis pas que l'FCC, disons, que la Cour va rejeter ces requêtes, ou bien la Cour va dire non fondée et non recevable. Non. J'ai dit déjà, voir comment est-ce que les démarches des choses vont
se faire. Merci beaucoup.
Je ne vois pas l'FCC avoir.
Recourir à la Cour. D'ailleurs, on va y revenir avec les profs, la question sur les juges. Alors, merci beaucoup. Alors, Alain Bolodjo, vous nous avez également rejoint. Vous êtes avec nous, Alain?
Oui, bonjour à Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Réaction par rapport à ce qu'a dit les profs et vos prédécesseurs qui intervenaient avant vous?
Bon, moi je crois que, bien que je salue le courage de tout un chacun, mais je crois que nous devons élargir notre espace d'analyse, hein, ou sinon changer de méthode. Parce qu'apparemment, on veut nous faire croire qu'il y a une crise, effectivement, il y a une crise, et la solution proviendrait de M. Félix Tshisekedi. Tout simplement parce qu'on a tendance à enlever dans le modèle d'analyse certaines variantes qui peuvent mettre à nu la responsabilité de M. Félix Tshisekedi par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que déjà au départ, j'ai dit, le plus grand obstacle par rapport à l'appel de M. Félix Tshisekedi, c'est sa propre crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que M. Félix Tshisekedi n'a jamais été sincère. Pour lui, son problème, c'est à chaque fois de responsabiliser les autres. C'est-à-dire il ne se force même pas à voir si de son côté, il n'a pas péché. Parce que dans le fond, déjà la perception de M. Félix Tshisekedi par rapport à la crise, elle laisse à désirer. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'il y a un problème de gouvernance? Eh bien, j'appelle les forces vives ou les autres partis politiques n'étant pas membres de la coalition à venir m'aider ou à venir me soutenir pour me débarrasser de mon partenaire. Ça, c'est quand même grave. Et c'est très grave pour un président, parce que là, ça donne l'impression, c'est comme s'il n'a pas la maîtrise de ce qu'il fait. La crise résulte d'abord de la crise de légitimité. La crise de gouvernance que nous observons aujourd'hui résulte de la crise de légitimité. Étant donné que M. Félix Tshisekedi a signé un deal avec M. Kabila, justement pour se garantir un fonctionnement en violation de la volonté de la population, aujourd'hui, qu'il est rattrapé par sa propre turpitude, il ne peut pas associer les autres pour résoudre le problème créé par lui et par son partenaire. Nous n'avons pas le même problème que M. Félix Tshisekedi. Notre problème, c'est le fait de voir qu'il y a un groupe de gens qui ont désorienté la volonté de la population, qui sont accaparés du droit souverain du peuple, et qui se sont mis là sans qu'ils aient le consentement de la population. Il nous a promis, quand même qu'il y a eu forfaiture, il nous a promis qu'il sera en mesure de résoudre le problème. 2 ans après, il nous dit, je ne suis pas capable de gérer la question, et bien j'ai besoin de votre soutien. Mais il a besoin de votre soutien, pourquoi? Parce que lorsqu'il appelle à l'union sacrée, l'union sacrée autour de quoi? Autour de l'individu Félix, ou l'union sacrée autour des principes qui sont déjà cristallisés dans la Constitution.
Oui, mais le président a évoqué ces principes. Le point de désaccord, parce que maintenant il cherche à élargir la majorité des gens qui auront la même vision sur la question de la paix, sur la question des élections. Parce que vous le savez, aujourd'hui les uns soutiennent Malonda, les autres disent non, pas Malonda, ça divise les deux camps.
Le problème, c'est que M. Félix, c'est qu'il donne l'impression d'être, bien que je ne voudrais pas être trop fort, d'être manipulé par un groupe d'intérêts.
Mais jusqu'à quand le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, permettrait qu'à l'Est, qu'il y ait des gens qui continuent à mourir et que les institutions ou les personnalités qui dirigent le pays, la question de gouvernance se pose en ce qui concerne la sécurité à imposer dans l'Est de la RDC?
Non, attendez. Lorsqu'il s'agit de prendre des options au niveau du gouvernement, je suis votre invité, bien que je n'ai pas apprécié sa manière de considérer le pouvoir dans l'État. Pour lui, considère que M. Félix Tshisekedi a le pouvoir plénier, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Non, là, il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans une république. Il y a des lois de la république. Quels sont les actes que les autres ont posés qui ont empêché à M. Félix Tshisekedi d'exécuter sa mission dévolue dans la Constitution? Et puis, même dans ce cas-là, le point de divergence se situe à quel niveau par rapport à la question sécuritaire?
Voilà. Merci.
Lorsque nous avons fait pression sur la question de Minembwe, la personne qui a créé les occasions pour que cela continue, c'est M. Félix Tshisekedi en convoquant ce fameux, en nous amenant dans ces spectacles-là au niveau du palais du peuple. Qu'est-ce qui est posé par les autres qui l'empêche de bien
voilà. Nous une très bonne question. Merci beaucoup, Alain. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent. Voilà, beaucoup
de
merci beaucoup, ça c'est votre point de vue. Merci beaucoup Alain Bolodjoie d'avoir appelé de Kinshasa. Alors on revient à vous. Quels sont les actes que les autres ont posés qui aujourd'hui amènent à ces discours, à ce divorce? C'est la question qu'il vous pose. C'est une question directe, hein.
Non mais attendez. Gérald Lungembo, la situation est grave. Bien. Ceux qui veulent faire l'opposition, qui sont dans l'opposition contre le président Chilombo, ils ont des endroits pour mener cette opposition. Ici, nous sommes à la recherche des solutions. On ne va pas faire l'opposition contre le président Chilombo. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? La situation étant ce qu'elle est. On n'est pas là pour chercher qui est responsable, qui a fait quoi, il faut couper la tête de qui, il faut, n'est-ce pas, sauver qui. Non. C'est le peuple qu'il faut sauver, c'est la nation, c'est notre peuple. Notre maison commune est en train de brûler, Gérald Lungembo. Il y a du feu. Il faut éteindre le feu. Avant de voir qui a allumé le feu, etc., ce débat-là va continuer. Mais il faut éteindre le feu, redresser la nation. Mais il n'y a que le président qui peut montrer la voie, bien sûr, après avoir consulté la nation, consulté les forces vives de la nation. Un dictateur ne consulte pas les autres. Un dictateur, il dit que moi, je suis le plus fort, le plus intelligent. Il a quelques copains, des courtisans autour de lui. Il commence à sortir des décisions qui engagent l'avenir du pays. Mais là, le président, il est modeste. Il dit, venez qu'on travaille ensemble. Vous m'avez confié la direction du pays. Voilà les difficultés que je rencontre. Venez qu'on en parle. Je vais vous écouter. Et puis, on voit ce que nous devons faire ensemble. Ça, ce n'est pas le comportement d'un dictateur. Donc, il est dans son rôle... Du symbole de l'unité nationale, du représentant de la nation, du régulateur du bon fonctionnement des institutions, c'est ce qu'il est en train de faire. On peut ou ne pas être d'accord avec lui sur autre sujet, tant mieux. Et donc, maintenant, nous devons être ensemble. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, je le répète encore, on ne peut pas y aller avec le dos de la cuillère sur ce point-là. Ce qu'il faut faire, c'est que le peuple, il faut redonner la parole au peuple. Et que le peuple lui-même choisissent de nouveaux élus qu'il va envoyer au niveau du palier parlementaire, et le palier parlementaire qui va déboucher sur le palier gouvernemental pour refonder l'action du gouvernement. Qu'on ait une équipe politique cohérente, dynamique, un peu ce que j'appelle une sorte de léopard politique. Léopard politique. Nous avons léopard football, mais léopard politique qui vont porter les couleurs du pays pour tirer le pays du trou profond dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et c'est ça la démarche du président.
Mais le président Kabila, l'avait fait. Avec le dialogue de l'OIA, il a créé un gouvernement d'union nationale qui n'a pas marché. Après le dialogue de la CENCO, il a créé encore un autre gouvernement. Bon, finalement, on est dans un siècle, un continuum de problèmes.
Mais bien sûr, vous parlez du gouvernement d'union nationale issu d'un accord politique, mais qui a bien marché. Qui a bien fonctionné dans le pays et qui a organisé les élections, et, comme vous le savez. Mais aujourd'hui.
Votre gouvernement.
Le gouvernement du Bal, oui. Mm-hmm. Et nous avons fait un bon travail qui a été salué par tout le monde. Organiser les élections dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des procès des uns et des autres. Nous allons faire ça. Il y a des endroits pour faire ces procès-là. Mm-hmm. Mais maintenant, il faut sortir. Il faut éteindre le feu qui est dans le pays. Et moi, j'ai indiqué la voie. C'est trop prétentieux.
Les élections
j'ai donné mes réflexions que je partage avec les amis au CAPI pour dire que pour moi la meilleure solution, mais il y a d'autres solutions, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les solutions, mais pour moi la meilleure solution, le président doit renverser la table et construire une nouvelle et belle table de travail pour le peuple congolais. Et comment le faire? Il faut éviter les conciliabules, les trucs. il faut redonner la parole au peuple.
Mais pour voilà, professeur, si
donnez-moi une nouvelle majorité parlementaire
pour arriver à la solution.
Oui.
Il faut vraiment penser à la cause également. Parce que la question des juges, l'auditeur vient de poser la question, quel est l'acte qu'a posé les partenaires qui fâchent aujourd'hui? Est-ce que moi je suis en train de réfléchir? Ce n'est pas cette question des juges. Vous l'avez dit, l'absence du gouvernement lors de la prestation des juges fait qu'aujourd'hui, les chefs de l'État constatent qu'il n'y a plus de gouvernement. Ben, est-ce qu'on peut dire que l'acte qu'a posé les chefs de l'État en nommant ces juges, l'acte-là, il est illégal et anticonstitutionnel?
Non. Je persiste et j'ai un immense plaisir de signer pour dire que le président n'a pas violé la Constitution. Le président n'a violé aucune loi de la République dans ce processus de nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Je répète, je persiste et j'ai le plaisir de signer cela. Il faut dire ceci, parce qu'on a raconté trop de choses. On a insulté le président de la République. On l'a traîné dans la boue. Alors qu'il n'y est pour rien. Qu'est-ce qui est prévu par la loi, la Constitution? À la Cour constitutionnelle, il y a 9 juges. Et la loi précise que ces 9 juges, on ne peut pas trouver 2 juges qui viennent d'une même province. Ou des juges qui ont des relations de famille, de cousins, ou de beaux-frères, etc. Non. Que c'est l'indépendance. Ces 9 juges sont désignés par le Parlement, qui désigne 3. Le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne 3 et le président de la République seul qui désigne aussi 3. Voilà comment le partage est fait.
Et chacun a un mandat de 3 ans.
9 ans.
9 ans.
9 ans. Mmh. Et donc, en fait, ce sont les 3 pouvoirs. Mmh. Vous avez le pouvoir exécutif, le président qui désigne 3, le pouvoir législatif, le Parlement qui désigne 3, le pouvoir judiciaire qui désigne 3. Voilà comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'espèce? Et donc, quand on désigne ces juges-là, c'est 9, avant d'entrer en fonction, ils doivent prêter serment. Mais avant de prêter serment, ça se fait dans la même cérémonie, on les présente à la nation.
Devant le peuple.
Et qui sont là, il y a le président qui est là, il y a le Parlement, le Sénat, le Parlement. Il y a aussi le pouvoir judiciaire avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont là, comme des invités, pour assister à la cérémonie. Présentation suivie de la prestation des serments devant le président de la République. Voilà. Et donc, la nomination, s'il faut voir le cas des juges à problème, les 3 juges, comment ça se fait? C'est conforme, justement, à l'article 2. Parce qu'il y a, 3 juges. Il y a un, c'était le président Luamba, qui était là, qui a démissionné, qui était désigné par le président Kabila, donc le pouvoir exécutif. Il a démissionné. Il fallait combler ce vide-là. Et le président a désigné, parce que c'est son pouvoir discrétionnaire.
Parallélise de forme.
Oui, bien sûr. Mmh. Bon. Il y avait 3, mais il y a un qui a démissionné. Le président a, si vous voulez, bouché le trou, comme on dit. Et donc, il a désigné le professeur Kalouba à ce poste-là. Mais il y a 2 autres juges qui sont entrés à la Cour constitutionnelle. C'est là où il y a le problème. C'est le juge Kamuleta et le juge Kaloumé. Ces juges sont entrés à la Cour constitutionnelle après nomination des 2 juges qui étaient là, des anciens juges qui étaient là, le juge Oubulu et le juge Kilomba. Et ces 2 juges, ce sont des anciens magistrats, parce que le Conseil supérieur de magistrature désigne 3 magistrats en activité. Bon, alors les 2 juges, les nouveaux juges remplacent.
Ils n'étaient pas arrivés à la fin de leur mandat.
Voilà, je vais arriver à cela. Mais question importante, j'aimerais bien que les auditeurs suivent cette appel. Est-ce que un juge à la Cour constitutionnelle peut être nommé à une autre fonction? Oui. Le président Kabila l'a fait avec le professeur Luzolo. Luzolo était déjà nommé, il était juge à la Cour constitutionnelle. Pendant 8 mois, ils attendaient la prestation, mais ils étaient déjà juges là-bas. À la veille de la prestation des serments, le président a nommé Luzolo comme conseiller chargé de la lutte contre la corruption, etc. Donc, le magistrat.
Mais non, le président Kabila avait violé la Constitution.
Ah non.
Parce que la Constitution.
Mais je vais arriver. À l'époque, personne n'a dit que le président Kabila a violé la Constitution. 3 ans après.
Mais pourtant, c'était une violation.
Non. 3 ans après, le professeur Vundoué, il est juge à la Cour constitutionnelle. Il est nommé par le président Kabila au Conseil d'État pour être premier président du Conseil d'État. Et donc, il quitte la Cour constitutionnel, il va au Conseil d'État. Il avait déjà fait 3 ans, il est là depuis 2015, son mandat c'était 9 ans, mais 3 ans après, ce mandat est interrompu parce qu'il est nommé à une autre fonction et qui est une fonction incompatible avec le mandat de juge de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela est prévu? Oui, cela est prévu à l'article 31 de la Cour de la loi sur la Cour constitutionnelle. Je renvoie tout le monde à cet article qui indique. Alors, cet article 31, c'est l'article sur les incompatibilités. Mmh. Bon, en ce qui concerne les juges à la Cour constitutionnelle. Donc, un juge à la Cour constitutionnelle qui est nommé ministre au gouvernement, qui est élu député ou sénateur, qui est nommé à une fonction dans un emploi public, ou qui crée un parti politique, ou devient un parti politique, ou d'un syndicat, ou d'un regroupement politique, voyez-vous, eh bien, il se trouve dans une situation d'incompatibilité. C'est l'article 31. Maintenant, il faut lire cet article 31 avec l'article 34, qui dit que lorsqu'un juge à la Cour constitutionnelle se trouve dans une situation d'incompatibilité, et donc il est juge, mais il est nommé à une autre fonction qui est incompatible avec l'exercice des fonctions du juge constitutionnel, on lui donne, Gerlungembo, je n'ai pas entendu les gens dire cela, on lui donne un délai de 8 jours pour se prononcer. Est-ce qu'il est d'accord d'exercer la fonction incompatible ou il veut rester à la Cour constitutionnelle? On lui donne 8 jours à partir du jour où on lui a notifié sa nomination, la nomination. Et donc, si dans le délai de 8 jours, il dit non, moi, je vais rester à la Cour constitutionnelle, je ne vais pas aller ailleurs, très bien, eh bien, il reste. Mais si dans le délai de 8 jours, il peut également dire oui, moi, j'accepte, je quitte la Cour, je veux partir. Le cas de Vondoé ou de Lesolo, etc. Mais il y a une troisième hypothèse où pendant le délai de 8 jours, c'est l'article 34, le juge ne dit rien, n'écrit pas pour dire qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord, il se tait. Et le délai de 8 jours est court. La loi dit, c'est l'article 34, ce n'est pas le président de la République qui a dit ça, c'est l'article 34 qui dit, à défaut, je lis cet article, à défaut, donc le juge en question, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour constitutionnelle. Bon. Le cas des juges concernés, Kilomba et Oboulou, je vais être très précis à ce sujet. L'ordonnance du président nommant ces deux juges date du 17 juillet passé. L'ordonnance a été notifiée à ces juges parce que j'ai mené les enquêtes, j'ai essayé d'avoir des informations fiables pour informer correctement les auditeurs. Informations que j'ai recoupées dans les milieux judiciaires. Le juge Oboulou, il a été notifié le 21 juillet. Il a reçu la notification pour dire, vous n'êtes plus à la Cour constitutionnelle, vous êtes nommé à la Cour des cassations avec promotion. Il est promu parce qu'il était à la Cour de cassation avant de venir à la Cour constitutionnelle. Il était simple conseiller à la Cour constitutionnelle. Maintenant, on le renvoie avec une promotion. Il est maintenant président, le numéro 2 de la Cour de cassation. Il est notifié. Je crois que Kilomba, c'était à peu près dans la même date. Alors, du 21 juillet, je donne une notification, jusqu'au 29, ça fait 8 jours, mais Oboulou ne dit rien. Le délai expire. Et on a observé, ça s'appelle des informations à ma disposition, que pendant cette période, ces deux juges sont allés se faire prendre des mesures pour la fabrication de la toge, pour la prestation de serment. La veille de la prestation de serment, ils ont fait la répétition, la simulation pour avec les autres pour indiquer comment ils vont prêter serment. Voyez-vous. Et donc, pendant le délai de 8 jours, leur comportement, les actions posées, montrent qu'ils avaient accepté d'aller à la Cour de cassation et de quitter la Cour constitutionnelle. Donc, c'est après la prestation des serments, le 4 août, que ces deux juges déposent une lettre pour dire nous voulons rester. Mais ils sont déjà hors délai, ils sont forclos. Ce sont des juristes, ils savent que si vous n'avez pas posé un acte dans le délai prévu, vous êtes hors délai, c'est fini. Et donc, par conséquent, là s'applique l'article 45 du statut des magistrats, un juge invité à prêter serment et qui ne se présente pas, eh ben, il est démissionné. Voilà. Et donc, je ne vois pas dans tout cela
les problèmes là où,
où est le président de la République. Ces deux juges sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, voilà. Leur composante. Qu'est-ce que le président, il a violé la Constitution là-dessus, quel point j'arrive pas à m'expliquer.
Voilà, on va lui accorder la parole. Il y a John qui est ici. Siro John, vous êtes là, John?
Oui, je suis avec une... Bonjour, c'est Gilles, bonjour à l'invité pour ce canal.
Voilà, quelle est votre réaction, John?
Oui, par rapport au discours du chef de l'État, il fallait quand même sa sagesse et son observation pendant les deux ans là. Parce qu'il y a toujours la population qui criait que non, avec le CC, il n'y a pas de solution parce que les 18 ans passés, on n'a rien vu. Et moi, je salue sa sagesse par rapport à ça. Concernant maintenant la rupture là, je suis d'accord, je ne suis pas de l'IDFC ou de FCC ou de l'INC, mais je vois maintenant l'avenir du pays. Mm-hmm. C'est que le président a évoqué là-bas, il va mal, il y a des blocages partout. Comment expliquer ces gestes? Un président de la République vous dit, instruit le ministre, non, allez fermer les portes, il est faux. Vous écoutez, vous n'appliquez pas ça. Dès que c'est ceci pour réhabiliter la route, il n'y a rien. Vous voulez qu'on puisse évoluer avec ces gens-là? Mais ça, le de notre pays, ça sort davantage. Pour le moment, vraiment, ici, il y a vraiment les gens qui aiment ce pays. Il ne faut pas quand même compter qu'il y a ceci, ceci. Il faut que maintenant voir maintenant le pays, essayer de sauver le pays dans 3 ans. Ça peut quand même marcher. Il faut que nos leaders, les nouveaux leaders politiques puissent quand même voir l'avenir du pays. Parce qu'on a constaté que dans notre cas, là, il n'y a que la recherche de revenir au pouvoir qui brime aussi la population. Vraiment, je conseille aux gens de ne plus voir la faute du président parce qu'il avait signé l'accord avec l'FCC, mais il a quand même eu le temps pour observer si les gens-là, quand même, ils ont la vision de quoi, du pays. Comme ils n'ont pas la vision du pays, c'est bien de chercher la majorité. C'est possible de chercher la majorité parce qu'il faut quand même essayer de déboulonner ces gens-là. Le terme qu'il avait utilisé, je pense qu'il faut quand même les soutenir par rapport à ça. Il faut déboulonner. Il y a les gens, nous sommes dans un trou. Rien ne marche vraiment ici au Congo, rien ne marche. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Les frais scolaires, les fournisseurs scolaires, ça galope à tout moment le taux de charge. Il faut quand même qu'il y ait des gens...
Merci beaucoup, John. Alors, François, vous êtes avec nous également. François, vous êtes à Kinshasa?
Oui, M. Gilles, ici avec vous. Oui. Bonjour.
Vous avez la parole, François.
Merci, bonjour Gilles, bonjour Pierre-Yves Lemengi, bonjour à l'invité. Je salue aussi en passant tous les auditeurs de la radio Kapia Ilebo et Pierre-Yves Mutilamoukoun de Kinshasa. Je salue l'appel du chef de l'État pour l'intérêt national. Cette décision est salutaire dans la mesure où ça vise l'intérêt supérieur de la nation et en cas de la constitution du 18 février 2006 pour la refondation de la gestion de l'État avec tous les partenaires sociaux et politiques. Monsieur Gilles, vous vous souviendrez ensemble avec moi dans ce pays, nous en avons connu aussi avec le chef de l'État, Joseph Kabila, à son époque. Il y a eu trop de consultations, il y a eu des gouvernements qui sont...
succédés, oui.
Alors, si le président Félix ouvre la porte des consultations, où est le mal? Il n'y a pas de mal. C'est question que les gens puissent attendre, puissent parler un même langage. Et je sais que le chef de l'État n'ira pas en dehors de la constitution. Si le FCC continue à être majoritaire, je pense que ils vont revenir au pouvoir, il n'y a pas de mal. Et moi, je salue cette initiative parce qu'il faut que tout le monde qui est de la gestion publique puisse aussi revenir.
Merci beaucoup, François. Alors, Benjamin, vous êtes également à Kinshasa. Benjamin, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Benjamin. Alors donc, professeur, je crois que la solution à ce problème, c'est qu'il faut organiser simplement des élections anticipées.
Permettez-moi, Gère, quelques mots pour la question des juges. Eh bien, ce problème concerne avant tout des juges. Ce sont des Congolais. S'ils estiment que l'ordonnance du président leur porte grief, c'est tout à fait légitime. Mais quelle est la solution? La solution n'est pas d'injurier le président de la République. La solution, c'est d'attaquer l'ordonnance du président de la République devant la juridiction administrative compétente. Tous les jours, le Conseil d'État annule les arrêtés des ministres qui sont attaqués en annulation par des citoyens. Les juges en question peuvent agir. Il n'y a aucun problème, c'est le droit. Et le président, dès lors qu'il y a un contre-saint du ministre sur cette ordonnance, le président est politiquement irresponsable. Il est protégé. Il n'est plus en première ligne. C'est le gouvernement qui a signé l'ordonnance, qui est en première ligne, qui doit agir, etc. Je ne vois pas pourquoi on doit passer le temps à injurier le président. C'est un problème individuel d'abord. Et donc, il faut que Kilomba et Oboulou attaquent l'ordonnance, pas le président, Mais l'acte, c'est ça, le contentieux administratif. Mm-hmm. Donc maintenant, la solution, les gens travaillent sur des solutions. Mais mon avis, c'est les élections législatives anticipées.
Avec quels moyens?
Avec des solutions de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais avec élections anticipées, sans dissolution de l'Assemblée, c'est faisable. Ça se fait tous les jours dans le pays. Avec quels moyens? Le problème du budget, Gérard Longuembo, nous avons déjà beaucoup de matériaux qui sont disponibles. On a fait les élections il y a à peine 2 ans. Eh bien, les urnes, nous avons une grande. Les machines à voter, il y en a déjà. Le fichier électoral est déjà disponible.
Avec quel CENI?
Oui, non. Enfin, je vais arriver à ça. Donc, sur le plan des opérations préélectorales, etc., on a déjà réglé un grand nombre de problèmes. Il faut mettre en place une équipe multisectorielle avec le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, avec nos partenaires, la MONUSCO, l'Organisation de l'Union Européenne, l'OIF, pour évaluer un budget réaliste, éviter les surfacturations, les coûts inutiles, etc. Et donc, ce ne sont pas des élections générales. Les sénateurs, les gouverneurs, les employés sociaux restent en place. C'est uniquement l'Assemblée nationale qui fait le problème là-bas. Et donc, on peut arriver avec un budget raisonnable, réaliste, et bien réduit à organiser les élections d'ici 6 mois, par exemple. Ce n'est pas très compliqué parce que le grand travail est déjà fait. Et donc, en ce moment-là, comment financer ce budget? Écoutez, pour une fois, le peuple congolais doit se faire respecter. Nous pouvons faire une collecte populaire pour demander au peuple de contribuer. Parce que c'est son dossier qui est en jeu. En Europe, pour certaines maladies, le cancer ou autre, on fait des télétons. On récolte des millions et des millions de dollars pour donner à des organisations, pour lutter contre le cancer, contre cette maladie. Ça se fait tous les jours. Mais là, nous avons le problème de survie, de salut public. Le peuple peut être invité à faire une collection, une contribution spéciale sur des comptes bancaires organisés, en plus de ce que le trésor public, sans déséquilibrer, peut ajouter, et en plus de ce que la communauté internationale peut nous apporter comme soutien. Voilà. Et on peut le faire dans un délai de ces 4 mois, 4 à 6 mois, on peut organiser ces élections et aller vite travailler 24
heures sur 24
pour trouver une nouvelle majorité qui peut permettre au président de travailler.
Professeur Kalala, merci d'avoir accepté notre invitation et on dit également merci à tous les auditeurs qui ont participé à ces débats et également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Donc on se retrouve dans un autre numéro, Wait and See, on verra comment les choses vont évoluer, on reviendra encore pour en débattre. Merci beaucoup professeur.
Je vais terminer en disant que je soutiens totalement le président de la République dans sa démarche pour l'union sacrée qu'il veut créer. Et moi, personnellement, je vais me retrouver dans cette union sacrée pour soutenir le président, pour redresser le pays.
Merci beaucoup. À très bientôt.